La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous. Ici, c'est le pasteur Luc Goyot, pasteur de l'église évangélique de Colomiers, près de Toulouse, qui vous parle aujourd'hui. Et je suis très heureux d'être avec vous. Le texte que je vous propose pour la méditation du jour se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, et on va lire des versets 22 à 25. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Le titre de notre méditation aujourd'hui, c'est « L'effet miroir ». L'effet miroir de la parole. Jacques utilise cette image du miroir en parlant de la parole, et c'est tellement vrai, peut-être que cela vous étonne, mais c'est tellement vrai que la parole est un miroir. Le premier effet miroir, ce sera notre première partie de la parole, c'est qu'elle reflète notre image. Vous allez me dire « merci pasteur ». C'est le rôle d'un miroir. Oui, justement. Sauf que un miroir classique reflète notre image corporelle, notre enveloppe extérieure, on est bien d'accord. La plupart du temps, c'est juste notre visage ou notre buste, mais pourquoi pas aussi le corps tout entier. La parole, elle, n'est pas un miroir classique. La parole est le miroir qui reflète notre image intérieure, ce qu'il y a à l'intérieur de notre enveloppe corporelle. Ah, cela change tout. Je voudrais dire ici que c'est le seul miroir qui puisse faire ça. Vous pouvez travailler à une introspection personnelle, vous n'arriverez jamais à découvrir vraiment qui vous êtes. Vous pourrez faire des séances avec les psychothérapeutes, etc. Ils ne pourront jamais vous dire qui vous êtes vraiment. La parole de Dieu, la Bible, lorsque vous la lisez avec beaucoup d'attention, que vous l'étudiez, que vous êtes très attentif, comme l'a dit l'apôtre Jacques, que vous ne vous bornez pas juste à l'écouter, elle va aller faire un travail en profondeur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, dans le 4e chapitre, versets 12 et 13, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, et l'auteur ajoute, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. » C'est très fort, ces paroles. Ça veut dire que l'effet de la parole dans nos cœurs, dans nos vies, est tranchant, il est profond, il va jusqu'en profondeur dans tout notre être. Il est parlé de l'âme, de l'esprit, il est parlé de jointures et moelles, des sentiments, des pensées du cœur. La parole vient nous révéler qui nous sommes vraiment dans notre être intérieur. À ce niveau, il y a deux choses qu'elle nous montre. La première chose, c'est notre état spirituel. Le miroir ne se soucie pas de notre état spirituel. Dans notre introspection personnelle, nous aurons des difficultés à faire une analyse spirituelle. Un psy, quel qu'il soit, ne s'occupe pas du spirituel. La parole nous révèle notre état spirituel. Et notamment, la première chose qu'elle nous dit, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous loin de Dieu, privés de sa gloire. C'est l'apôtre Paul, dans chapitre 3 de son épître aux Romains, qui nous le dit. Et on n'est pas étonné que et Jean-Baptiste et Jésus lui-même, dans leur première prédication, vous le trouvez dans le début des évangiles, prêchent la repentance, c'est-à-dire le fait de reconnaître son état de pécheur et de vouloir être transformé, en changé. Deux exemples qu'on trouve dans les évangiles, et j'aimerais vous dire que la parole n'est pas là que pour voir aussi ce qui ne va pas, elle peut révéler aussi ce qui va bien. Et ces deux exemples nous le montrent. Il y a d'abord Pierre, après la pêche miraculeuse, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, au verset 8, on lit ceci. « Quand Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Voilà le premier acte important d'un homme au contact de la parole. Il se rend compte qu'il est pécheur. Jésus-Christ est la parole faite chair. Pierre avait Jésus en face de lui qui accomplit un miracle extraordinaire et il se sent tout petit, misérable devant la grandeur de celui qui est devant lui. Et il va se repentir, tomber à genoux. Réaction normale. Un autre exemple qui est positif cette fois, c'est lorsque Jésus est en contact avec Nathanaël, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Le miroir ne révèle pas que tes défauts. Vous pouvez trouver que vous êtes beau devant un miroir. Mais la parole de Dieu vous montre aussi ce qu'il y a de bon en vous. La deuxième chose qu'elle peut nous montrer, c'est notre état émotionnel. Tout à l'heure, dans le verset d'introduction, on a vu que... Dans le passage de l'Épître aux Hébreux, on a vu qu'il juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole peut me montrer si je suis blessé. La parole peut me montrer si je suis dans la frustration, dans l'amertume, dans une forme d'orgueil, dans une forme de culpabilité, de dévalorisation personnelle, de dépression peut-être aussi. C'est la mission de la parole, de dévoiler l'état de nos cœurs. Jésus a dit lui-même, lorsqu'il est entré dans la synagogue de Nazareth, qu'il a déroulé les parchemins d'Ésaü, il a lu Ésaïe 61 et il a dit que c'était sa mission, et notamment de venir guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. On voit comment Pierre est interpellé par Jésus sur la question du pardon, par exemple, en lui donnant la parabole du serviteur impitoyable. On voit aussi comment Jésus montre le cœur de ce pharisien, Simon, et le regard qu'il a sur cette femme pécheresse. On peut lire le passage d'ailleurs qui est très instructif dans Luc chapitre 7, et on lit des versets 36 à 48. « Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leur dette. « Lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. » On voit clairement deux choses ici, c'est que la présence de Jésus amène encore une fois à la repentance, cette femme. Et c'est salutaire, puisque Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais devant la parole, on peut voir d'autres attitudes. Des attitudes plus fermées, plus strictes. Et que Dieu va révéler aussi, au travers de la parole. Ici, c'est Jésus qui parle de la part de Dieu, et qui dévoile le cœur de Simon. Le pardon des péchés, c'est une libération spirituelle, mais aussi une libération émotionnelle, dans le sens où nous sommes libérés de la culpabilité. Et nous recevons le pouvoir d'aimer et de pardonner à notre tour. Le temps me manque pour vous parler de Zachée, par exemple, ou de Joseph, trahi par ses frères et qui parviendra à les pardonner. Le deuxième effet d'un miroir et de nous permettre de travailler sur nous. Est-ce que vous avez essayé de vous raser sans miroir, messieurs ? Mesdames, avez-vous essayé de vous maquiller sans miroir ? Le miroir nous permet de faire un travail d'entretien ou de réparation sur notre visage notamment. Par exemple, si je me regarde dans la glace et je vois que j'ai une trace de dentifrice sur la joue, bien, il est évident que je ne vais pas partir au travail sans avoir enlevé cette trace. Et cela peut nous interpeller par rapport au texte d'introduction cette fois, où il est dit que celui qui se regarde dans le miroir et qui repart sans savoir qui il était, c'est celui qui ne met pas en pratique la parole. Et en fait, c'est aussi absurde de lire la parole et de ne pas la mettre en pratique que de se regarder dans le miroir et de voir une trace de dentifrice et de partir sans l'enlever. La parole nous montre ce que nous devons faire pour plaire à notre Créateur, très clairement. Premièrement, elle nous dit ce que Dieu attend de nous. Dans le texte d'introduction, il est dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié, se mettra à l'œuvre et il sera heureux dans son activité. » Donc, on sait ce qu'on doit faire, on connaît la volonté de Dieu pour nous en lisant sa parole. On peut mettre le texte en parallèle avec le texte d'Éphésiens 2:10 où il est dit que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Le premier message qu'elle nous renvoie, on l'a dit tout à l'heure, c'est que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de nous repentir. Mais il y a tant d'autres choses. Elle nous interpelle sur notre manière d'être, notre manière de communiquer, notre manière de réagir. Elle nous permet tout simplement de faire des progrès et d'être de mieux en mieux sous tous les angles. Deuxième point, dans cette deuxième partie, elle nous permet de nous entretenir spirituellement. Lorsque l'on est chrétien, nous sommes appelés à marcher dans un chemin de sanctification, c'est-à-dire au fur et à mesure que nous évoluons avec Dieu, Dieu nous met à part de ce monde, avec une autre mentalité, d'autres aspirations, d'autres besoins. C'est un long travail. Et c'est au travers de la parole, notamment, et avec l'aide de l'Esprit-Saint, que ces choses se font. Dans Jean chapitre 17, versets 16 à 17, Jésus dit ceci, « Ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Et il prie Dieu de sanctifier les disciples par sa vérité. Ta parole est la vérité. Et dans l'Épître à Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 25 et 26, Paul dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. » Amen. Un miroir classique, il va vous montrer des défauts. Si vous avez un trop gros nez ou des yeux qui ne sont pas de la couleur adaptée, le miroir vous le fera remarquer, mais ne va rien changer à cela. Par contre, la parole nous fait remarquer ce qui ne va pas et elle nous donne les instructions pour le rectifier et ça marche. Ça marche, on voit des vies changer, des vies transformées par l'action puissante du Saint-Esprit qui, au travers de la parole, touche des cœurs et change des vies. Étudier la parole, se nourrir de la parole, c'est quelque chose de vital en fait. C'est ce qui nous permet d'exister, de vivre. On a donné une image de la parole qui est celle d'un miroir, mais il y a tant d'autres images, celle d'une nourriture. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Et nous savons tous que si nous ne nous nourrissons pas pendant un temps prolongé, notre santé physique va se détériorer et cela peut conduire même jusqu'à la mort. La parole est vitale pour que nous restions en vie spirituellement. Sans cette nourriture, notre état de santé spirituelle se détériorera et nous pourrons aller jusqu'à la mort spirituelle. En fait, la parole, c'est un vrai trésor. Elle nous indique la démarche à suivre pour suivre Jésus, pour l'honorer, lui plaire, pour rectifier ce qui doit être rectifié. Elle nous encourage à persévérer. Elle nous montre pas seulement ce qu'il ne faut pas faire, mais elle nous montre surtout ce qu'il faut faire. Elle nous encourage lorsque nous sommes sur la bonne voie. La parole est tellement utile aussi dans notre quotidien. Elle nous donne des clés comportementales et relationnelles pour mieux vivre avec son entourage, sur son lieu de travail, dans sa famille, dans son quartier, dans la pratique de loisirs. Chaque fois que nous sommes en relation avec les autres, il doit y avoir toujours cette interpellation chez ceux qui nous côtoient, de réaliser, remarquer que nous sommes différents, qu'il y a quelque chose de différent en nous. Cette différence, c'est que Jésus-Christ, la parole faite chair, vit en nous. Il ne s'agit pas juste d'un livre et quelque chose qui est extérieur à nous, un objet d'étude. Il s'agit que la parole vienne pénétrer dans nos cœurs, qu'elle habite en nous et que nous puissions dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la parole qui vit en moi. C'est pour ça que j'aime toujours préciser qu'il est important de vivre la parole plutôt que juste la lire. La parole nous rend plus beaux. Je ne parle pas de beauté physique, vous l'avez bien compris. Et puis aussi, la parole nous rappelle les promesses de Dieu. Et quand les circonstances adverses sont là devant nous, nous devons apprendre à baser notre foi, comme le dit l'apôtre Paul, sur la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. C'est tellement important de s'appuyer sur la parole, car quand les circonstances sont contraires, quand ce que nos yeux voient nous décourage, si nous n'avons pas la parole, alors nous ne pourrons que nous effondrer. La parole est une source d'espérance. La parole est un pilier pour nos vies. Je conclurai en disant ceci. Comme chaque matin, parfois pour certains plusieurs fois dans la journée, vous allez devant le miroir pour vous coiffer, vous raser ou autre chose, vous soigner peut-être, faire des soins du visage. De la même manière, vous ne pourrez pas vous passer de venir au contact du miroir de la parole. Il est tellement bienfaisant. Se regarder quotidiennement dans le miroir de la parole est la clé du bonheur. Jacques dit, alors tu seras heureux dans ton activité. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Merci pour cette méditation. Et comme le dit Jacques, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que cette parole pénètre vraiment nos cœurs. Donne-nous à chacun d'aimer la parole au point de la regarder autant de fois que l'on se regarde dans le miroir de notre salle de bain. Je te rends grâce et je te bénis. Bénis tous les auditeurs. Fais-leur du bien au travers de cette méditation. Bénis-les, eux et leurs familles. Au nom de Jésus. Amen.
À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer.